Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Victor Hull,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est une exposition que l'on visite avec ses yeux, ses oreilles et ses pieds et ses yeux pour regarder les photos, les pochettes de disques, les œuvres de street art ou les articles de mode qui en jalonnent le parcours. Les oreilles pour découvrir ou redécouvrir, grâce au casque fourni à l'entrée, les grands tubes qui jalonnent toute l'histoire de la culture hip-hop de ses débuts il y a bientôt 50 ans jusqu'à nos jours. Et les pieds pour évoluer d'un écran à un autre et surtout marquer le beat et battre la mesure. Plongez avec nous aujourd'hui dans l'une des plus grandes révolutions musicales du XXe siècle, celle du hip-hop. Pas seulement musical d'ailleurs, car ce genre, longtemps méprisé, a aujourd'hui totalement essaimé, bien au-delà de l'espace culturel, jusque dans les tréfonds de la société. Hip-hop 360, gloire à l'art de rue, une exposition à visiter jusqu'au 24 juillet à la Philharmonie de Paris, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour François Gautret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un grand spécialiste des cultures urbaines et vous êtes le commissaire de cette exposition. Et à vos côtés, en studio, un certain Sidney. Bonjour Sidney.
Bonjour les frères et sœurs. Quelle joie et quel bonheur de se retrouver tous les dimanches sans fin sur TF1.
Bon alors, on n'est pas dimanche, on n'est pas sur TF1, mais bienvenue Sidney sur RFI. Bonjour, en direct cette fois-ci, bonjour à vous.
Bonjour Jean-François.
Voilà,
bonjour.
Quelle joie et quel bonheur de vous recevoir, que de souvenirs.
Ah, on copie mes textes là, ça va.
Ah, complètement, ouais, complètement. Vous avez le copyright, effectivement, attention, mais ça a marqué, je pense, une génération de Français, presque au-delà, en réécoutant ce bonjour. C'est vraiment une partie de l'histoire de la télévision et de l'histoire de la culture hip-hop en France que l'on revit. On va évidemment en parler dans un instant, d'ailleurs dans l'exposition François Gautret, il y a un salon des années 80 qui a été reconstitué avec des fauteuils et un vieux poste de télé qui diffuse cette émission hip-hop lancée le 14 janvier 84 sur TF1. Mais je voudrais commencer avec vous François Gautret, avec le moment où on entre dans l'exposition. On en a plein la vue, on a un écran géant là avec une frise chronologique et des dates. Et la première date clé, c'est 1973. On peut dire que c'est cette année-là que le hip-hop est né ?
C'est ça, donc 73 avec l'arrivée, la naissance de la Zulu Nation aussi, de ces rassemblements de paix et de valeurs positives. Du coup, Bambaataa, qui est un des pères fondateurs du hip-hop, prône ces valeurs-là sur la naissance du hip-hop.
Oui, Africa Bambaataa, vous l'avez reçu d'ailleurs, Sidney. Quoi, bien sûr, attendez, c'est pas si évident que ça, parce que quand on voit toute l'histoire qu'il ferait avec lui, j'imagine que c'était un grand moment pour vous.
Bah, c'était un grand moment, ça a été. J'ai basculé dans la culture hip-hop grâce à lui, quand je l'ai rencontré, grâce à Laurence Huitoux, qui était chez elle, en 1982. Elle me dit, mais tu passes le disque Planète Rock d'Africa Bambaataa. Je travaillais, bien sûr, j'avais une émission quotidienne sur Radio 7, petite sœur de Radio France. Et elle me dit, mais Bambaataa est chez moi, je ne l'ai pas cru. Et Laurence Huitoux m'a dit, ben, je viens avec un taxi, je te l'emmène. Et quand je rencontre Africa Bambaataa à Radio France, c'était le moment où il me dit, mais attends, t'es dans la culture hip-hop depuis un moment, voilà, tu le savais pas, je te l'apprends.
Voilà, Africa Bambaataa, l'un des pionniers effectivement de cette culture hip-hop. D'ailleurs, la première partie de l'exposition s'intitule Retour aux sources. On commence donc par un coup d'œil dans le rétroviseur avec notamment des photos prises à New York dans les quartiers noirs comme le Bronx par des photographes comme Sophie Bramley ou par la danseuse Martine Barra. Qu'est-ce qu'elles nous racontent ces photos, François Gautret ?
Alors là, la sélection faite avec Martine Barra, justement, c'est une Française qui a immigré dans les années 70 à New York, dans le Bronx, qui a vécu vraiment et qui vit encore. Et l'idée, vraiment, c'était de découvrir dans ce contexte social assez particulier. Et puis, cette jeunesse qui crée ce mouvement dans un ghetto, on peut le dire, au départ. Et donc, voilà, c'est des images assez fortes. Martine Barra, elle photographie la jeunesse, les enfants qui sont pleins d'enthousiasme, qui ont cette envie d'exister, de vivre et de positiver. Et donc, c'est quelque chose de très positif qui ressort dans ces images, même si on se rend bien compte que l'univers, c'est-à-dire le contexte, quoi, il est quand même chaotique.
I to the hip hop, the hibbit to the hip hip hop. You don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta.
For brothers doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call, close to the edge. I'm trying not to lose my head.
Effectivement, The Sugarhill Gang, Grandmaster Flash et le fameux duo James Brown Africa Bambaataa dans VMDN sur RFI, des artistes et des morceaux mythiques que le visiteur de cette exposition Hip Hop 360 écoute et réécoute avec le casque audio qui leur est distribué à l'entrée. C'est que le début. Qu'ont-ils de si particulier ces trois morceaux-là? En quoi est-ce que ces pionniers-là, le son justement des pionniers, François Gautret, qu'est-ce qu'ils apportent de neuf, de nouveau, de jamais entendu auparavant?
Les sonorités, les valeurs aussi qui sont véhiculées à travers les textes forts aussi, et forcément James Brown, la passation aussi de la soul, du funk vers ces sonorités aussi très modernes, et avec cette idée toujours avec le hip-hop d'aller de l'avant, d'être toujours avant-gardiste, et Bambaataa très vite qui amène des sonorités avec Soul Sonic Force et l'électro-funk, donc toujours aller de l'avant. Donc ça, c'était les maîtres mots, quoi. C'est vraiment
aller de l'avant, et puis aussi boxer avec les mots, pour reprendre aussi l'expression que vous utilisez dans l'exposition. On évoquait Sydney, Africa, Bambaataa et la Zulu Nation. À la base, le hip-hop, c'est quand même d'abord un engagement politique.
Non, pas politique, c'est un engagement culturel et social. Donc toutes les politiques peuvent être concernées, quelqu'un de droite ou de gauche, qu'il soit démocrate ou qu'il soit, quel que soit son parti, son rayon, sa défense. La culture hip-hop est vraiment quelque chose d'universal, ça touche tout le monde, toutes les races, quel que soit le milieu d'où l'on vient. Et ces trois titres ont une belle particularité, c'est que pour que le rap devienne, ou que la culture hip-hop devienne accessible à tout le monde, les thèmes de musique ont été bien choisis. Quand on prend l'instrumental de la chanson Good Time de Chic, que tout le monde connaît et qu'on rappe dessus, au moins ça permet à la culture hip-hop d'être accessible justement à tout le monde en écoutant une musique assez légère. Il y avait ce premier rap qui était plutôt un rap festif, mais quand est arrivé le rap plus radical, plus social, et le rap conscience, qu'on appelle celui de Grandmaster Flash et de Melly Mel, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut revendiquer des choses, on peut dire des choses qui sont des choses de la vie, de la cité, de la rue, des quartiers, de la vie.
Voilà. Et donc partager ce message au grand public, c'est donc ce que vous avez fait sur TF1 Ciné. Mais si l'on en croit la directrice des programmes de l'époque, Marie-France Brière, RFI était un tout petit peu pour quelque chose. Il faut dire que le nouveau patron de TF1 à l'époque s'appelait Hervé Bourges et qu'il venait justement de RFI.
Je me souviens que Hervé Bourges m'avait dit: faites un écran de fumée, faites n'importe quoi, il faut amuser les journalistes jusqu'à la grille de rentrée. Et c'est là où j'ai inventé cette émission qui faisait un quart d'heure, qui passait le dimanche en début d'après-midi dans un horaire improbable.
À choper, à chiper, à choper, à
C'est un animateur de radio à RFI qui me dit qu'il y a un type formidable qui est dans une discothèque dans les Halles. Donc je me suis mis dans un coin, puis j'ai glissé ma carte de visite et j'ai marqué « J'ai besoin de vous pour une émission ». Alors, la fameuse écran de fumée, c'était Sinef.
Voilà, extrait du documentaire « La télé des années 80 » réalisé par Pascal Drapier. C'est incroyable quand on y réfléchit. Au départ, vous étiez donc un écran de fumée. Vous l'avez largement dépassé. Hein.
Oui, mais en plus, pour bien préciser les choses, Marie-France Brière était quelqu'un d'assez incroyable, ouais, qui ressentait les choses, qui avait une espèce de pif, qui ressentait les choses plus que moi à cette époque. Quand elle m'a proposé de faire cette émission de télé, elle me dit « Mais vous dansez dans le hall de Radio France, là, tous les gamins, on avait fait des dédicaces par Futura 2000. Enfin, vraiment, c'était déjà énorme pour une petite radio telle que Radio 7, qu'elle en a eu cette idée. » Et que vraiment, les gens qui ont fait cette émission avec moi, j'ai appelé ceux qui m'ont présenté Africa Bambaataa. Donc, il y avait Sophie Bramley que j'ai pris pour faire cette émission et surtout Laurence Huitoux. Donc, on était vraiment déjà les trois à la base pour créer cette émission formidable, ouais, dont on ne pensait même pas que ça pouvait être une émission.
Voilà, à un horaire improbable. Oui. C'était en tout début d'après-midi.
Starkey et Hutch, le dimanche après-midi, en face de Jacques Martin.
Voilà, avec des gens absolument incroyables qui n'étaient pas forcément aussi connus qu'aujourd'hui. Mais il y a Madonna, par exemple. Là, on sort un peu du hip-hop, mais vous avez reçu Madonna à Paris, dans le studio.
Mais forcément, Madonna, traînait entre guillemets, fréquentait donc tous ces gens du hip-hop à New York. Donc forcément, elle était dans cette bande et elle a fait un disque, Holiday, ok, c'est pas très hip-hop, mais bon, je vais devenir une star. Alors vas-y, comme c'est une copine, on l'a fait
donc,
passer.
Donc viens, t'es la bienvenue sur le plateau, toi aussi. Quoi. Voilà. Et sur le plateau, il y avait des enfants qui dansaient aussi, hein, devant les caméras de TF1. Il y avait Passy, il y avait MC Solar, il y avait Doc Gideco, il y avait quelques autres. Bref, toute la future génération hip-hop qui rencontrait les pionniers venus des États-Unis.
C'est un petit peu normal, parce que moi, je vivais dans le 93, 95 avant et 93.
Donc la banlieue parisienne.
La banlieue parisienne, Saint-Denis, la Courneuve. Donc forcément, je les voyais déjà petits dans le quartier. Donc ils sont venus, ils m'accompagnaient déjà. Ils venaient venir à Radio 7, ils étaient petits, mais je les emmenais quand même.
Au passage ciné, vous devenez quand même le premier animateur noir de la télévision française en métropole. En tout cas, vous le saviez ça à l'époque, vous l'avez ressenti avec fierté ?
Non, même pas avec fierté, c'est même pas, je faisais mon boulot quoi. Je pense que c'est le problème justement quand on dit oh, vous êtes le premier noir à faire. Non, ça nous renvoie dans des choses. Non, justement, qu'on soit noir, blanc ou jaune, j'étais le premier à faire une émission sur la culture hip-hop dans le monde. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, oui, noir, c'est vrai. C'est une exception. Mais c'est dommage que ce soit encore des exceptions. Il faudrait que ça soit plus généralisé.
Mais alors, comment est-ce que vous avez été sensibilisé justement à cette culture hip-hop au point justement d'être le premier dans le monde, comme vous le disiez à l'instant à la partage ?
C'est premier dans le monde pour faire une émission comme ça. C'est bien sûr grâce à Hervé Bourges, à Marie-France Brière, des gens qu'on a un sens d'ouverture dans tous les sens pour de la culture, mais ça s'est fait parce que déjà à la base.
Comment justement cette culture hip-hop, vous avez suivi Bernard Zécry et le New York City Rap Tour, c'est ça le début?
On a fait connaissance déjà au début en 82, mais ensuite c'est à la radio. Mais c'est surtout parce que d'abord je suis musicien, que j'aime les musiques et que j'avais une émission thématique tous les soirs de la semaine. Donc il y avait une page sur l'électro musique, j'appelais pas ça hip-hop encore, mais il y avait du rap dans cette musique sans qu'on sache qu'on était déjà dans la culture hip-hop. Donc, qu'on appelle un peu un précurseur, voilà. Oui. Parce que je dansais déjà, je faisais de la musique, donc etc., etc. C'est venu tout seul.
Donc la télé et la radio. Et la radio, François Gautret, elle a vraiment joué un grand rôle dans la popularisation du hip-hop en France. Il y a vraiment toute une pièce, hein, d'ailleurs, On inonde les ondes dans l'exposition, qui est dédiée à la radio, avec une molette qui permet aux visiteurs de changer de fréquence radio, de changer d'antenne et d'avancer aussi dans le temps. C'est vraiment comme ça, grâce aux ondes, grâce à la radio, que le hip-hop est passé de l'underground au grand public ?
Forcément, ça en fait partie. Donc cette pièce-là, on l'a conçue avec Franck Aderer, qui fait partie des conseillers musicaux sur l'exposition. Et du coup, on a vraiment... on a un ghetto blaster, un boombox qu'on peut manipuler et on se balade de fréquence en fréquence et dans le temps. Donc des premières émissions, effectivement, en passant par Radio 7, Nova, jusqu'à aujourd'hui...
Jusqu'au Move aujourd'hui, par exemple. Rock. Et puis avant, alors à gauche, hein, tout à fait à gauche de la bande FM, donc juste avant vous, Sidney, il y a Carbone 14 et il y a Phil Barney.
Oui, il n'était pas avant moi, mais on était... Non, on va pas...
Ah, il est tout à fait... Attention, on ne va pas faire de battle avec Phil Bernet.
Hein. Pas du tout, Phil est un super copain. Moi, c'est l'un des premiers que j'ai entendu rapper en français, sur son générique de l'émission. Je l'ai réécouté justement au Philharmonique, j'étais ravi, je lui en ai fait part, il m'a dit, voilà, donc... il est ravi aussi, bien sûr. Phil Bernet fait partie de ses précurseurs de la culture hip-hop. Son rap, c'était... Le rap de l'époque, donc Franchouillard et tout, mais c'est assez sympa. C'est un peu chacun fait ce qui lui plaît, mais c'est ce qui plaisait à la France et ouais. C'était hyper sympa. Oui,
avant ça plaisait réellement à la France, le rap, parce qu'on se dit aussi avec les yeux d'aujourd'hui, avec les oreilles d'aujourd'hui, eh bien qu'à l'époque, beaucoup de gens considéraient le rap comme de la sous-musique, en quelque sorte. Ouais. Ça n'a pas dû être toujours évident comme ça d'inciter réellement les gens à passer au-delà de leurs préjugés.
Bah parce qu'on rentrait dans une phase qui était la première phase électro, avant l'électro-musique dont on parle actuellement, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de musiciens avec des platines et des machines, des sampleurs, des machines à prendre, des extraits musicaux dans des musiques. On pouvait faire notre propre musique. Le propre de la culture hip-hop, c'est de prendre quoi que ce soit d'une culture brésilienne, d'une culture internationale, d'une, n'importe quel style de musique, et l'agrémenter pour en faire une plage instrumentale. Pour pouvoir parler, rapper dessus. C'est cette différence qui fait ces différences. Donc ça ne plaisait pas forcément à tout le monde dès le début. Jusqu'au jour où on s'est aperçu que les DJ sont vraiment des musiciens à part entière et qu'ils arrivent à faire des nouvelles musiques avec uniquement des appareils électroniques.
Meurtrier à souhait au cœur d'assassin. C'est encore lui et pour vous il revient.
Oui je suis le mec que l'on appelle Rocking Squat. Ma poésie fuse et mes rimes matraquent. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18ème je t'envoie cette nouvelle potion. Donc rentre dans cette rythmique des plus poétiques. Ton corps s'enflamme sur chaque base de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. L'impérial est là pour te faire danser.
D'accord.
Le plus hardcore de toute la partie nord. Passe et repasse puis s'évapore. Donc écoute-le, prête à ton. Absorbe cette leçon, bois cette potion. Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux. Car quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. Je rentre dans ton esprit, puis j'en ressors, puis j'y reviens. Je brûle tes cellules, pour moi c'est enfantin. Pourquoi ? Car j'ai la formule secrète.
MC Solar et auparavant Assassin, Dynasty et Suprême NTM, quelques-uns des premiers grands succès hein, du rap français dans VMDN sur RFI avec Sydney et François Gautret à propos de l'exposition Hip-Hop 360 à la Philharmonie de Paris jusqu'au 24 juillet. Ce premier hip-hop français-là, François Gautret, est-ce qu'il s'inscrit clairement dans le sillon tracé par les Américains ou il trouve une voie beaucoup plus originale, une véritable voie française ?
Je pense qu'on se démarque. On voit Dynasty qui avait cette fameuse émission Dynastyle sur l'antenne de Radio Nova à l'époque et qui accueillait tous ces nouveaux, ces jeunes rappeurs qui arrivent. Donc la première scène du rap français avec aussi Lionel D, paix à son âme, Big Brother Hakim, Johnny Go, Destro. Troyman, enfin voilà, et il y avait une envie Saxo, enfin tous ces rappeurs qui avaient envie de dire des choses, parfois de manière plus pacifique que d'autres, mais voilà, il y avait aussi cette envie de véhiculer des messages. Et puis Dynasty a permis ça aussi à travers son émission, et forcément il y a quelque chose d'original, parce que par rapport aux Américains, on n'a pas forcément les mêmes, même s'il y a un contexte social qui existe aussi, on parle de banlieue et tout ça, mais voilà, on n'a pas aussi forcément les mêmes origines. Aux États-Unis, on est très proche des Latino-Américains, et là, les influences, on est plutôt sur le Maghreb, l'Afrique, et donc voilà, ça se ressent aussi dans les sonorités. On arrive aujourd'hui sur des types, enfin, la musique avec, par exemple, la trap musique avec d'autres sonorités, et voilà, donc je pense que ça on a notre particularité, notre originalité.
Est-ce que le rap français, Sidney, a évolué au rythme de la société française? Est-ce que c'est une bonne vitrine sonore de la façon dont le français a évolué?
Au rythme de la société, à condition que la société a un certain rythme. Mais c'est plutôt ça. Le hip-hop avançait à son rythme, on va dire. Et comme le hip-hop n'a pas vraiment de rythme, il progresse comme il peut dégraisser, ou on peut ne pas aimer ou aimer. Mais je pense que la page d'aujourd'hui de cette culture hip-hop, qui est plutôt la drill, après le trap, la drill, etc., des expressions, des noms qu'on peut créer aujourd'hui en 2022, mais le message reste le même, et il reste sympathique, il reste dur, il reste franc et réel, et c'est le principal. Cette culture, elle apporte vraiment des choses et des mots aussi que ces jeunes ont besoin d'exprimer. Ils expriment ça dès qu'ils ont l'âge de 15 ans, quand ils sont teenagers, mais après, plus tard, ça continue. Et je crois que c'est pour ça que c'est une culture à part entière, et que la façon dont on s'exprime aujourd'hui, qu'on s'exprimait hier, est pour moi la même. Il n'y a pas de old school, de new school. Il y a un état d'esprit qu'on apporte, comme dans toutes les musiques.
Mais est-ce qu'il y a un rap français ou des raps français?
Il y a un rap français. Il y en a qui rappent, et pour moi, il y en a qui rappent pas. Ils parlent, ils font autre chose, ils font du slam, ils font autre chose. On rappe ou on rappe pas.
Oui, alors c'est vrai que la définition du rap, elle évolue aussi, François Gautret, suivant les artistes et suivant ceux qui en parlent. Comment est-ce que vous pourriez définir tout simplement le rap et le hip-hop? Parce que les deux mots ne sont pas synonymes.
Oui, ouais, bah c'est vrai que dans le parcours, très vite, on donne cette intention-là, montrer que le hip-hop, c'est différentes formes d'expression, c'est pas que le rap.
On va y venir, évidemment, dans un instant.
Forcément, on présente ces différentes formes d'expression. Mais là où je voulais en venir, si on reste concentré sur le rap, il y a une des installations qui montre que justement il y a quand même différentes approches, et effectivement on a découpé ça en styles, et effectivement il y a des styles plus festifs ou plus engagés, avec du rap aussi hardcore, ego trip, storytelling, et en fait on a divisé ça par tranches pour qu'on puisse aussi découvrir la richesse et diversité d'approches des textes.
Mais là vous parlez d'approche musicale et d'approche au niveau effectivement des textes. Est-ce qu'il y a une approche locale, plus régionale? Est-ce qu'il y a un rap marseillais et un rap parisien, en région parisienne? Est-ce que le rap, c'est la prolongation du match OM-PSG par d'autres moyens?
On veut du battle ici.
Côte ouest, west coast.
Voilà. Ça. Non, mais ça, c'est vrai, c'est de la légende, c'est de la frime pour la com, ou bien c'est une réalité aussi esthétique et artistique?
Bon, le clash, ça a toujours fait partie aussi du truc. On se challenge, mais voilà. Je pense que aujourd'hui, des artistes comme Jules qui réunit sur un même titre de la scène parisienne et marseillaise, c'est de moins en moins valable. La compétition, elle a toujours été un peu là, dans tous les domaines, hein, même dans le foot, voilà. Oui. Mais après, voilà, peut-être que Sidney veut réagir.
Sidney est pour la paix des familles, lui aussi, j'imagine. Hein.
Moi, je suis pour la paix des familles, voilà. Non, mais le rap, c'est bien qu'il y ait des régions, c'est bien qu'il y ait des couleurs, surtout dans l'intonation des voix. Quand le rap de Marseille arrive, il apporte une chaleur, mais c'est le même message. C'est le même message. Il y a les quartiers nord, Marseille, etc. Et les quartiers nord de Paris.
Ça crache sur le terrain, dans la réalité de la vie des différents artistes.
Voilà. Mais autrement, je ne peux pas dire, tiens, tout le monde s'adore, tout le monde s'aime, mais c'est dans la compétition qu'on devient meilleur. Et c'est un peu la même chose. Le rap devient de plus en plus meilleur ou différent, tout dépend des quartiers. Et c'est ce qui est intéressant. C'est pareil aux États-Unis. Sur la West Coast, le rap est beaucoup plus funky, beaucoup plus deep. Et New York, c'est beaucoup plus... Voilà. chacun choisit, il y a plusieurs styles, c'est ce qui fait justement l'éclecticité de cette culture.
Et cette diversité, effectivement, on s'en rend compte hein, dans l'espace circulaire à 360 degrés qui est vraiment au cœur de l'exposition, avec des performances live qui sont projetées sur écran géant, le spectateur est au milieu, donc on se croit vraiment au concert, ce qui est plutôt pas mal en cette période de pandémie où les concerts debout sont toujours interdits. Et on entend là vraiment pour le coup des artistes de tous les horizons, de Paris, de Marseille, de Toulon et d'ailleurs. Et on entend Diams aussi sur la chanson Marine, dans laquelle on entend ceci.
J'emmerde qui ? Le Front National, moi j'emmerde qui ? Le Front National, moi j'emmerde qui ? Marine, tu es victime des pensées de ton géniteur. Génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix, Marine.
Alors on est en pleine campagne électorale en France, ça vous a pas échappé j'imagine François Gautret. C'est donc un choix très fort, très politique que vous avez fait là François Gautret, vous et les programmateurs de l'ensemble de l'émission.
Effectivement, le hip-hop sert à ça aussi, manifester un cri de différentes manières, comme les graffeurs ont pu le faire à une époque où effectivement on voyait des tags vandales partout à un moment où personne prêtait attention au hip-hop, et ça a été aussi un cri. Donc voilà, c'est effectivement oui, c'est un parti pris.
Voilà, c'est un parti pris. Ciné.
Il y a de l'affichage sauvage quand on est en pleine élection. C'est pareil, là, il y a du graphe sauvage, il y a du rap sauvage.
Voilà, du rap sauvage avec Diams. Au passage, quand même, au-delà de la chanson Marine, qui, ouais, je pense, marque effectivement les visiteurs qui rentrent hein, sous cette coupole à 360 degrés. Diams, c'est l'une des rares rappeuses de l'exposition, parce que ça reste quand même un milieu très masculin, le milieu du rap en tout cas. On passera au hip-hop d'une façon plus générale dans un instant, mais le milieu du rap est encore aujourd'hui très masculin.
Oui, mais quand même, il y a La L.A.S., Kenny Arcana, Chilla, on en retrouve pas mal finalement dans le parcours de l'exposition.
Mais en pourcentage, ça ne représente pas grand-chose, hein, soyons clairs.
Voilà, bon, on n'est pas encore.
Il y a encore du boulot. Comment vous expliquez ça justement, Ciné ? Est-ce que vous avez un élément d'explication ? Les femmes seraient plus frileuses ? Pourquoi est-ce qu'elles ont plus de mal que les hommes, en tout cas statistiquement parlant, à percer dans le rap ?
Dans le rap, c'est un petit peu comme partout. En politique, on voit encore toujours moins de femmes que d'hommes, et c'est bien dommage. Moi, je me suis le premier battu à faire tourner justement avec moi, au lieu d'avoir que des danseurs, avoir des danseuses. J'ai toujours eu les Ladies Night avec moi dans les années 80-90, et j'ai toujours eu des danseurs aussi, comme les Actuelles Forces, qui m'ont toujours entouré lors de mes spectacles. Et il faut savoir que pour le rap, c'est un petit peu la même chose. On a eu les premières rappeuses, on a eu Salia, on a eu tout ça, mais on a eu bien sur Diams, que j'ai connu déjà même à l'époque où elle traînait avec Lisa Yansupakrou, parce que c'est un monde où effectivement on pense que c'est un monde de macho, de machisme, mais pas du tout. Les femmes sont les bienvenues, mais on les voit actuellement dans la danse, parce que maintenant on a des big girls, on les appelle comme ça, les danseuses, les breakers girls, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est que la femme a autant sa place dans la culture hip-hop que les hommes. C'est toujours un moindre pourcentage, mais c'est toujours la même force. Et quand elles prennent le micro, elles le prennent, c'est toujours aussi puissant. C'est
ça. Alors, on parlait de breakdance à l'instant, et c'est vrai que dès le départ, Sydney, à la radio et à la télé, vous présentez aux spectateurs le hip-hop au sens vraiment très large. Hein. Donc, ouais, les rappeurs, les mixeurs, les breakdancers, les graffeurs et j'en passe. Et c'est aussi cette dimension très globale que met en lumière l'exposition. En fait, Sydney, dès le départ, vous aviez tout de suite compris que cette culture-là, elle n'était pas seulement musicale.
Oui. Ça se ressentait tout de suite parce qu'on le vivait. Quand on s'est aperçu que des jeunes venaient de tous les quartiers, venaient juste apprendre à danser parce qu'il se passait quelque chose, ils disaient tous, tiens, au lieu qu'on traîne dans les quartiers, au lieu qu'on n'a rien faire, on danse. Donc c'est devenu un problème, c'est devenu justement quelque chose pour nous. Tu dis bien quelque chose, qu'on n'a pas encore ce nom vraiment, on va dire hip-hop, quelque chose de très social. Et quand quelque chose est social, qui touche tout le monde, toutes les races, tous les niveaux sociaux, à partir de ce moment-là, on se dit, on est sur quelque chose qui est une culture naissante.
Voilà, une culture naissante, conçue pour durer. C'est une des expressions que vous utilisez aussi pour rythmer les changements, enfin les étapes, on va dire, du parcours du visiteur. François Gautret, quels sont les éléments qui, dès le départ, étaient là pour montrer que le hip-hop avait les moyens de s'ancrer durablement et pas seulement, n'était pas seulement une simple mode comme ça, qui susceptible de passer très rapidement?
Je dirais que l'idée déjà même du hip-hop, c'est de faire énormément avec très peu. Il y a beaucoup, l'art de la débrouille au début, c'est faire énormément avec trois bouts de ficelle. On voit bien même dans les styles vestimentaires, quand on parle de hip-hop 360, c'est qu'on arrive aussi vers la mode, on arrive vers les réalisateurs de clips, enfin le côté les photographes aussi, street photographeurs. Donc c'est vraiment 360 aussi dans ce sens-là. Et je pense que c'est un mouvement qui perdure aussi parce que il y a toujours cette envie de se dépasser, de développer des nouvelles techniques. Il y a le dépassement de soi, il y a le challenge qu'on retrouve dans les battles, et donc je pense que on voit par exemple à la boutique Ticarette à l'époque.
Oui. Il y a un espace Ticarette Social Club dans l'exposition. Alors, Ticarette, c'est le nom d'une boutique qui a été créée en 1985, hein, je pense.
85-86. Ouais.
Paris.
À Paris, dans le 10e, à Stalingrad.
Par Daniel.
Exactement, par
Big
Dan.
Dan
de Ticarette, Teddy, Abdelmuck. C'est des gens qui tenaient cette boutique et qui, à l'époque, allaient récupérer à New York des objets, des nameplates, des kangols, des chapeaux, des vestes et customiser des t-shirts avec les graffeurs et pour ressembler aux artistes qu'on voyait dans les clips américains. Quoi. Donc,
ouais. C'était, les chaînes en or aussi.
Les chaînes en or, bien sûr.
C'est quoi la symbolique de la chaîne en or, d'ailleurs?
Sydney,
il doit savoir ça, non?
La chaîne en or pour quelqu'un qui part de rien, qui a besoin de montrer qu'il existe et qu'il a réussi quelque part dans la vie, entre guillemets réussi, a besoin de montrer l'importance en portant tout son or sur lui. C'est des gens qui n'ont pas confiance aux banques et tout ça. Ça a commencé par l'acteur, j'oublie son nom, là, avec la coupe de cheveux en zazou, là, qui avait costaud, baraqué, comment il s'appelait?
Big Daddy Kane.
Big Daddy Kane. Et l'acteur américain qui avait fait un feuilleton.
Celui qui fait le Barracuda.
Mr. T.
Mr. T portait tout son or sur lui. Oui. C'est en même temps une mode, je ne peux pas dire vestimentaire, mais c'est une manière aussi.
C'est une manière de.
Et il y a tout un alignement de mannequins dans l'exposition qui présente la façon dont les grands équipementiers sportifs en particulier ont intégré l'influence du hip-hop. On peut dire que la mode urbaine des sneakers d'aujourd'hui, elle est peu ou prou issue justement de cette culture.
Carrément. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour rentrer en boîte, il faut limite avoir la meilleure paire de baskets. Alors qu'à l'époque, on était mis sur le côté.
C'est dire effectivement toute l'évolution de la façon dont la culture hip-hop est perçue par l'ensemble de la société.
Excuse-moi. Elle est tellement énorme que des marques comme Nike ou Lacoste ne voulaient pas se faire estampiller par la culture hip-hop ou avoir une image hip-hop qui était pour eux une image dégradante. Alors qu'actuellement, c'est grâce à la culture hip-hop qu'ils ont
une aversion totale.
Que ce soit Adidas ou les autres. Voilà.
Oui. Alors, on parlait de Ticarette à l'instant. Ouais. Il paraît qu'il y avait aussi un petit studio. Le mot studio est peut-être un peu excessif, François Gautret, mais dans le cadre de la boutique. Et il y avait de temps en temps des petits jeunes qui venaient.
C'est ça, qui venaient enregistrer des titres. Ouais. Et puis, il y a le fameux Booba qui enregistre un titre à cette occasion-là dans l'arrière-boutique avec Dan.
Bon, on va écouter Booba justement. Je ne suis pas sûr que ce soit ce titre-là, mais on va en écouter un autre.
C'est quoi ? C'est de la 09. J'ai les mains froides. La France veut m'embaucher, tenter de me réchauffer. Elle peut se mettre en WAD. Je ferai mon propre chemin. Non à la NPE, oui à la débauche, fuck demain. Citation sans félicitation. De drame en drame, je ne fais pas bonne impression, je sais. J'avance de gramme en gramme, mais j'ai choisi ce train de vie. J'en assumerai les conséquences, les aléas de la street, j'en ai pris connaissance. Du Hood à Hollywood, j'en rêve comme tous les autres. Mais j'irai simplement d'une cellule à l'autre. Je jeune noir, rien à foutre, comme ça que je me définis. Rien à commencer, je me dis que tout est fini. Les massages, j'écris mon récital. De bataille et mon chant lexical, je ne suis qu'une racaille. 09 dans la peau. Des colombes sortent de mon chapeau. Les colons ont mon drapeau. J'ai des flashs de ségrégation. Nelson, mon co-détenu, m'a aidé à tenir bon. Mais je n'ai ni son calme, ni sa sagesse. J'ai un cash, ni corps du neuf, mon c'est 92 ouest. On m'a déjà tué deux fois, une fois à Memphis, une à Harlem, jamais 203. J'attends ces fils de pute qu'ils viennent. À 10 ans, j'ai vu gorer, depuis mes larmes sont éternelles. Ma rage automatique, mes armes semi-automatiques. Être hors la loi me soulage. Je me dis qu'ils ne mourront pas. Je vends de la drogue aux jeunes, j'en vends à leur en bas. Peu importe, tant que ma poche est pleine, ces chiens n'ont qu'à crever la bouche ouverte. Moi j'ai besoin de cash, besoin de découverte. Je passe pas à table, je mets pas les couverts. Je suis condamné à vivre, je me ferai jamais sauter le couvercle. B2OBA, je m'appellerai moitié Babtou. En hommage, mon cousin Booba de Baobab. L'ennui, le pire ennemi du banlieusard. Le crime a payé parfois, beaucoup plus fort que ma foi. Paquet de cocaïne, défie la brigade canine. Respire mon sachet blanc, tire plus longtemps qu'Alcaline. Rejoins-moi dans ma suite, au Lorraine Motel. Je sors fumer une clope, je reviens tout de suite en bas de chez moi. J'ai repéré des taupes, on se croit au-dessus des lois, eux se croient au-dessus des nôtres. Et je sais que je vais plonger, qu'ils sont sur mes côtes. J'ai des frissons, rien que d'y songer. Qui sort à 09
Booba dans VMDN sur RFI. Alors c'est peut-être pas son plus grand succès, François Gautret, mais c'est important quand même ce titre-ci parce qu'il marque l'arrivée de l'autotune en France. Alors c'est un véritable tournant, l'autotune.
Alors je suis pas le mieux placé pour en parler. Justement, j'ai été conseillé, j'ai eu des conseillers musicaux là justement là, sur l'exposition, dont Yerim Sarr aussi qui a travaillé là-dessus, qui est vraiment pointu sur cette partie-là. Mais effectivement, oui, l'autotune c'est un tournant dans la musique.
Oui, c'est-à-dire que ça permet, à travers ce logiciel de correction de la voix, ça permet à tout le monde de chanter juste, même quand on ne sait pas chanter. Ouais. C'est un peu ça, Sidney, c'est un peu violent ce que je viens de dire.
C'est ça. Enfin, oui. Y en a qui savent chanter et qui s'en servent, ça c'est dommage.
Oui, aussi. Mais quel est votre regard, vous, alors justement, qui suivez tout ça depuis le début? Qu'est-ce que ça a changé, l'autotune?
Ça n'a pas amené une évolution, mais ça a créé donc un changement. Mais c'est pas, il y en a qui rappent avec leur propre voix, d'autres qui utilisent justement des appareils. Maintenant, on trouve tout dans les logiciels qu'on a pour faire de la musique. Parce que maintenant, tous les jeunes peuvent faire de la musique chez eux avec pratiquement rien, un ordinateur et un petit clavier deux octaves. L'avantage, c'est que s'ils n'ont pas de voix, avec l'autotune, avec tous les effets qui sont incorporés dans l'ordinateur, ils peuvent transformer cette voix. Ça a créé un élément nouveau, on va dire, alors que l'autotune existe depuis la nuit des temps, depuis qu'on fait de la musique, depuis les appareils électroniques. Mais là, ça permet de donner un changement, une différence de couleur, de chanter juste pour ceux qui ne chantent pas juste. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont sur scène, c'est un peu...
Voilà, c'est un petit peu risqué. Faut pas que ça tombe en panne. c'est clair. C'est vrai, François Gautret, que les logiciels ont droit de citer dans l'exposition, et les machines aussi, ouais, hein, diverses et variées aussi. Alors, il y a évidemment les très grosses chaînes IFI.
Les ghetto blasters qu'on appelle aussi les boombox.
Voilà, on se baladait évidemment avec ces gros appareils sur l'épaule. Il y a aussi une table de mixage studio que les visiteurs peuvent manipuler à l'envi. Mais il y a peut-être un objet, peut-être le plus émouvant, c'est la première beatbox. Son nom de naissance, c'est la Vox V829 Percussion Kings.
Exactement, qu'utilisait Grandmaster Flash, exactement. Et du coup, il utilisait comme un appareil qui envoie comme des percussions. Et donc, il créait ses beats comme ça, avec ses mix. Et il y a une vidéo sur les réseaux où on le voit l'utiliser, justement. Il suffit de taper Grandmaster Flash Vox 808.
Alors, vous expliquez aussi de façon très, à la fois très didactique et très ludique, le sampling, le travail des beatmakers, le travail des producteurs, et puis les mixtapes. Alors, c'est quoi une mixtape, Sydney ?
C'est le mot anglais de bande mixée, voilà. C'est la petite cassette.
Oui, une petite cassette audio.
Une cassette audio qu'on avait avant, et cette cassette-là, on pouvait enregistrer 60 minutes ou 90 minutes de musique face A, face B, et on pouvait donc préparer ses propres mix sans un coût supplémentaire d'aller en studio et tout. Donc la première mixtape que j'ai vue dans les mains d'un DJ, c'est Dynasty, qui était venu à Radio 7 me ramener ses mixtapes. Et au moins, ça leur permettait de faire connaître leur mix, leur choix musicaux en tant que DJ, de les vendre pour gagner un petit peu d'argent, voilà, et de se faire connaître avec ça. Donc la mixtape, c'était la première chose qu'il y avait avant, parce qu'il n'y avait pas de CD. Quel support ces jeunes DJ allaient se faire connaître en diffusant leur musique? Les radios, bon oui, s'il y avait une émission de radio, c'était possible. Sinon, pour pouvoir se faire connaître, eh ben les mixtapes ont commencé à se vendre dans les magasins de disques, un peu partout, dans les concerts, et voilà.
Et main à la main aussi, ouais,
carrément. Et à la main.
Main à la main, oui, faut pas oublier.
un deal légal, quoi.
Ouais, l'un des premiers à avoir bien commercialisé les mixtapes, c'est la bande. J'ai dit la bande à Cut Killer, de Double H, Cut Killer et ses frères, vraiment, ils ont fait un boulot formidable là-dessus.
Bon, il y a aussi des vinyles dans l'exposition, en veux-tu, en voilà. Vous évoquez aussi, d'ailleurs, François Gautier, le travail sur les pochettes. Comment est-ce que vous pourriez décrire, en quelques mots, un extraterrestre, le graphisme hip-hop?
Ah, le graphisme hip-hop au sens large ou sur la sélection des pochettes de
Non, sur les pochettes, justement.
Ah, alors, du coup, bah, là, c'est vraiment une carte blanche qu'on a donnée à Dynasty. Au départ, il était vraiment sur l'esthétisme des pochettes de disques, avec souvent qui ont été travaillées par des artistes. On voit une pochette de Kessaring, on voit une pochette travaillée par des graffeurs sur des logos et autres artistes, notamment sur la partie française, Big Brother Hakim, ou alors Johnny Go et Destroy Man, ou Lionel G. Et on voit des disques réalisés par des artistes graffeurs, souvent, et avec très colorés et avec différentes influences du monde, justement.
Ouais, et puis, évidemment, le graphe aussi dans la rue. Vous avez appelé ça, avec humour, Paris sous les bombes. Vous avez reconstitué un wagon du métro parisien. C'est très réussi. Pour une fois, on a vraiment envie de s'asseoir et d'admirer ses œuvres. Il a ses codes propres aussi, le graffiti français.
Oui. On a commencé par des gens comme Boxer et tout ça, avec la même particularité de graffer sans se faire connaître et pas se faire choper aussi. Ça a commencé à se colorer d'ailleurs. Chaque fois qu'on sortait de la gare de Lyon, la gare du Nord, et que le train s'en va, on voit défiler tous ces noms en se demandant mais c'est qui quoi, c'est qui, comment, ils ne sont pas connus, ils veulent se faire connaître par le graphe. Oui, ça se véhicule depuis déjà très longtemps, mais là vraiment, au début des années 80, ils se sont dit tiens, il y a ça aux États-Unis, nous aussi on va faire pareil. C'est bon.
Les rappeurs et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue. Je dois dire que le leader de tout cela, celui qui émerge en tête, c'est Kerry James. Et vous allez l'entendre, écoutez surtout attentivement les paroles, comment c'est beau et comment c'est français.
Je noircis des feuilles blanches à l'encre des peines, à l'encre de mes peines. Je m'époumonne sous la fureur du vent. Mes mots s'envolent comme des nuages mouvants. On me tue chaque jour dans la langue de Molière. Je rends chaque coup dans la langue de Césaire. Poète noir, je chante ma solitude. J'habille des espoirs que l'aube dénude. Je m'inspire de feuilles mortes aux couleurs d'automne. Ma poésie naît où l'été s'endort quand l'hiver chantonne. Puisqu'écrire c'est oser, j'ose sans demi-mesure. J'ai des souvenirs pourpres à en faire rougir l'azur. Je viens des tours de ciment à perte de vie. Cimetière d'illusions où se terrent les envies. Quand les lendemains ne font même plus de promesses, mourir à 20 ans peut te sembler romanesque. À traîner le jour, j'ai vu naître la nuit. On a longtemps cru que vivre, c'était tuer l'ennui.
l'égalité. Je crois la voir en silhouette ce soir où la pauvreté pointe un flingue sur ma tête. Je noircis des feuilles blanches à l'encre d'ébène, à l'encre de mes peines. Je m'époumonne sous la fureur du vent. Mes mots s'envolent comme des nuages mouvants. On me tue chaque jour dans la langue de Molière. Je rends chaque coup dans la langue de Césaire. Poète noir, je chante ma solitude. J'habille des espoirs que l'aube dénude. Jugé sur mon teint, j'écris à l'instinct. J'ouvre les bras au monde, mais seule la peine m'étreint. Alors sourire forcé, je ne serai jamais français. Ici les fils de colons ont peur d'être grands remplacés. Au soleil levant, s'éteindront mes jours. Il affronte en moi la guerre civile d'Eric Zemmour. Peur des différences ou panique sanitaire. Les moutons masqués trouvent la dictature salutaire. Je mène une vie de poème, je m'émancipe en lettres. Je n'attends pas qu'on m'aime, j'exige qu'on me respecte. À chaque instant je meurs, je ne suis pas grand chose. Peut-on rendre le monde meilleur en semant des pétales de bronze?
Le poète noir Kery James dans VMDN sur RFI. Kery James d'Oise-Navour, on l'a entendu saluer l'art des mots et de la poésie et qui sera en concert ce vendredi soir à la Philharmonie de Paris en ouverture d'un week-end festif. François Gautret, quels sont les grands rendez-vous?
C'est ça, l'idée de cette expo aussi, c'est qu'elle soit vivante. Donc sur les 7 mois, donc jusqu'au 24 juillet, on va pouvoir y découvrir toute une programmation dans l'espace d'exposition, mais aussi dans la grande salle de la Philharmonie avec les concerts de Kery James, un Battle of Legends avec les grands noms de la danse, mais aussi la scène hexagonale, pardon, des initiations au beatbox, enfin des colloques. C'est un programme assez riche.
Voilà, il y aura aussi d'ailleurs Chila, par exemple, des jeudis soirs, puisqu'on évoquait la scène féminine et il y a un instant. Il y aura Mourad Merzouki et son spectacle Box Box Brasil, et puis il y aura des performances de breakdance. Et puis à propos de breakdance, on a aussi de quoi se féliciter, François Gautret, puisque on le sait, hein, désormais, pour les JO de Paris 2024, eh bien le breakdance sera aussi une discipline olympique.
Exactement. Donc le hip-hop avance, hein, et continue.
Ouais. Quel fierté. Chemin parcouru quand même, Sidney. C'est vraiment là pour le coup une reconnaissance incroyable. Au-delà d'ailleurs du monde de l'art.
Oui, de toute façon je le répète tout le temps. À chaque fois on est surpris, chaque année c'est un point, c'est un pas de plus à avancer dans la reconnaissance, mais c'est surtout une grande fierté. Et on n'aurait jamais, comme je dis toujours, on n'aurait jamais pensé en 82 qu'en 2022, 40 ans de hip-hop, qui est déjà une exposition au Philharmonique, mais surtout au Philharmonique, vraiment c'est une reconnaissance pour cette culture. Vraiment, on a le mot culture hip-hop avec des lettres majuscules. Voilà, c'est un grand plaisir. Le hip-hop, le breakdance surtout, à l'hommage. Maintenant, c'est la première fois que ça se passe, espérons que ça se passe bien. Bien sûr, des fois c'est tendu, on cherche encore à trouver. C'est la première fois que ça se fait au monde, donc c'est nouveau, on est content.
Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Sidney, merci François Gautret.
Merci.
L'exposition Hip-Hop 360 à découvrir à la Philharmonie de Paris jusqu'au 24 juillet. Exposition sous-titrée « Gloire à l'art de rue », comme ce titre de Funky Family sur lequel on va se quitter. Gloire à l'art de rue.
Ambiance scandale, danse de vandale, d'où vient la chaleur?
Gloire à la rue.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, d'où vient la chaleur?
Gloire à la rue.
DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox.
Le thème c'est art de rue, dédié à ce qui pratique et ce qui aime ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone, ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tacle sur les fourgons. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit, on désire toujours faire mieux. Vu que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes, on pense et l'esprit qui fait le pense. Tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux, savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. Bon, veut, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour, mais pas quand y'a beaucoup de trucs en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux. C'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA.
Dans un instant, le journal sur RFI, à demain, et vous m'en direz des nouvelles.